La dimension souterraine, ou les mystères du champignon fluorescent.
Une histoire écrite par la grosse situation.
Épisode 1. Menace en Haute-Rigonde.
Chapitre 5.
Flou, 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 flou. Enfin,
Marthe ressort du sang dessus dessous. Ça fait bien 2 heures que Laura attend, tapie dans la nuit, que la grande dame énervée avec ses grandes bottes ressurgisse du repère underground. Elle ressort de là comme une pelote de réjection recrachée par un hibou. Elle a l'air complètement en vrac. Elle tangue comme un trois-mâts sur la houle d'un océan déchaîné. Elle avance tête baissée vers le parking de la grotte où est garée sa mobylette. Elle s'appuie d'une main contre le portail et reste là sans bouger. Laura hésite. Tout à l'heure, elle a manqué Marthe de peu. Elle pédalait comme une ouf sur le chemin de père impair pour venir présenter à la paléontologue sa dernière invention. Son application qui permettrait peut-être de faire avancer les études concernant les mystères des animaux préhistoriques qui vont par deux dans la grotte. Au loin, elle a vu Marthe traverser intempestivement la route puis disparaître dans le bistrot. La grenade de père impair semblait découpillée et Laura n'a pas osé l'interpeller. Avec sa découverte technologique de la plus haute importance sur le cœur, elle se sentait trop fragile pour subir une explosion d'humeur ce soir-là. En plus, elle n'est encore jamais rentrée dans le sang dessus-dessous. Toutes ces personnes qui parlent fort l'impressionnent. Telle une chatte sauvage qui se purge pour éviter l'indigestion, voilà Marthe qui s'ébroue et parle toute seule dans la nuit.
Je les déteste. Ces mecs-là et leur impunité me rendent malade.
Elle fait demi-tour et revient vers le chai de père impair. Laura ne s'est toujours pas montrée. La paléontologue regarde de chaque côté de la route comme pour vérifier que personne ne la voit. Puis, elle se glisse vers la porte du bâtiment où les vigneronnes des renardes résistantes rangent leur matériel agricole. Encore un petit coup d'œil furtif à droite, puis à gauche. Ok, Marthe se croit seule. Elle soulève une grosse pierre au pied de l'énorme glycine qui grimpe sur le bâtiment et attrape une clé avec laquelle elle ouvre la remise. Depuis sa cachette, Laura entend à peine un farfouillis et l'instant d'après, Marthe ressort avec un gros sac sur le dos. Elle referme la porte, repose la clé, petit coup d'œil, droite, gauche. Elle se hâte vers sa vieille mob. Bon, c'est le moment.
Marthe ! Marthe !
Laura déboule sur le parking comme si elle venait d'arriver en faisant un grand dérapage contrôlé avec son VTT. Ses cheveux décolorés phosphorescents sont dressés d'excitation sur sa tête. Marthe, qui est en train d'accrocher sur son porte-bagages de meubles le sac en papier dérobé aux renardes résistantes, manque de faire une crise cardiaque.
Non, mais t'étais pas dingue de faire irruption comme ça?
Non, mais attends, là, t'es pire qu'un champignon de Paris qui pousse dans le noir. Qu'est-ce qui se passe, Laura? La dernière fois que t'as déboulé comme ça, il y avait 3 vieux de la maison de retraite, une aide-soignante et 3 gamins, plus une taupe qui était enfermée dans un éboulis dans une carrière souterraine. Ça me dit rien de bon, ton arrivée. Là.
Non, Marthe, là, ça n'a rien à voir, se lance Laura.
Bon, je te préviens, je suis pas d'humeur. Il y a l'autre blaireau Dumfrey qui vient zoner sur mon territoire. Et s'il veut encore celui-là, tu peux me dire? Et d'où il sort avec son falzar couvert de boue? Il veut que je sorte ma baïonnette de Kalachnikov pour lui tailler un costard de légumes zombies?
J'ai un cadeau pour toi, Marthe. Continue Laura, déterminée.
Un cadeau? Mais pourquoi faire? J'aime pas les cadeaux.
Marthe a fini d'attacher le sac avec son tendeur et elle se dirige maintenant vers le fond du parking, direction la grotte. Rapide coup d'œil sur le sac, Laura peut y lire le contenu du magot. Bouillie d'orbelaise. Elle emboîte le pas à son héroïne et ne lâche rien.
Marthe, je l'ai testé sur Eddie et la taupe bichounette. Et ça marche! J'ai mis au point une nouvelle appli pour téléphone avec un récepteur d'intuition qui permet aux humains de communiquer avec le monde animal. Faut absolument que je te l'installe sur ton...
Écoute, j'ai pas le temps de discuter là. La coupe, Marthe. Tu, 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 Tu sais très bien ce que je pense des nouvelles technologies. Et j'ai toujours pas de smartphone, ma chère Laura.
Non, mais moi, je voulais te la mettre sur ton ordi. Puis on peut installer le capteur d'intuition dans la grotte. Et comme ça, enfin, tu pourras communiquer directement avec les mammouths et les autres animaux gravés sur la paroi. Et ils pourront enfin te dire la vérité sur d'où ils viennent, quel âge ils ont exactement, et puis si ce sont des mâles ou si c'est des femelles, si les humains qui les ont dessinés étaient des hommes ou des femmes, si c'était des artistes ou des chamans. Toutes ces choses que tu souhaites savoir depuis tout ce temps, puis ça pourra te rendre célèbre.
Un éclair zèbre le ciel étoilé et froid. L'orage éclate aux portes de la grotte Père Impair. La foudre tombe non loin de là, dans une vigne en contrebas. Et Marthe tombe sur Laura. Apparemment, la bombe n'avait pas encore explosé.
La vérité ! Hurle Marthe. La vérité !
Elle le répète encore au moins deux fois comme une rampe de lancement.
Laura ! Sache que la vérité est un nuage dans un ciel qui n'existe pas. On ne sait rien. Rien. Tu entends? Les humains ne savent rien. Et si je suis paléontologue et que je m'intéresse aux traces laissées par les hommes et les femmes préhistoriques, c'est justement parce qu'on ne sait pas. La paléontologie, c'est comme... C'est comme trouver un décor de théâtre et imaginer la pièce qu'on a à y jouer. On a 99,99 de chances de se tromper. D'ailleurs, c'est même sûr qu'on se trompe, Laura. Mais quelle chance! Quelle chance de ne pas savoir, tu entends? Quelle chance de se tromper! Les plaisirs de l'indétermination, c'est ça le cadeau.
Laura ne connaît pas tous les mots que Marthe hurle à la nuit. Mais étrangement, bien que la situation soit hyper tendue, ce qu'elle entend lui procure une sorte de joie, sans qu'elle ait besoin de comprendre pourquoi.
Et le jour où je serai célèbre, Laura, les poules auront des dents. Le jour où je serai célèbre, ça ne peut pas arriver. Je travaille dans un milieu d'hommes assoiffés de pouvoir qui cherchent toujours à s'accaparer les fruits des recherches des autres. Surtout quand les autres, ce sont des femmes. Ils seront toujours célèbres à notre place, toujours, Laura.
Marthe laisse un long temps de silence.
Et puis être célèbre, c'est bien la dernière chose que je souhaite être.
Marthe souffle un grand coup.
Pardon, Laura. Comme d'habitude, je m'emporte. Tu ne pouvais pas savoir. Mais là, tu dis des mots chagrins, là. C'est pas de ta faute. En ce moment, c'est un peu compliqué. Dans très peu de temps, je dois donner cette conférence à Dorbeau, là, au musée d'Aquipaine, par rapport au galet dont je t'ai déjà parlé, je crois, tu sais. Le galet, là. Le galet sur lequel est gravée une hutte.
Oui, tu m'avais dit. Le galet à la hutte que tu as trouvé sur le roc de Prégnan, à côté.
Oui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel je travaille depuis des années et que je suis obligée de garder secret, car il ne fait pas l'unanimité. Disons-le comme ça. Certaines personnes pourraient essayer de s'en emparer et de déformer mes propos qui les dérangent grandement. Tu vois, je reçois des lettres de menaces et tutti quanti. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un gros problème avec la grotte de Père Impair. La pauvre vieille dame subit une attaque de champignons incontrôlables qui sont en train de grignoter dangereusement les dessins des animaux qui ornent ses parois.
Marthe s'est assise sur un gros caillou à l'entrée de la grotte. Recroquevillée, ainsi sur elle-même, on dirait une grande grenouille. Laura s'approche d'elle et l'entoure de ses bras maigrichons. Elle reste ainsi immobile dans le silence de la nuit. Elle forme un petit amas humain qui ressemble à une hutte. Un petit tipi protecteur dans un monde de brutes.
La renarde qui les observe de derrière un buisson d'if. Je rôde et je me glisse de limite de territoire en lisière boisée. Je débusque. deux humaines dans la nuit. Je reconnais la garnette de la grotte aux animaux gravés. Souvent, elle rôde aussi, la nuit, dans le bois. Et même sous terre, ça m'est arrivé de la sentir, pas loin. Je l'ai hume dans la nuit. Je reste tapis, à l'abri. Je ne bouge pas.
Laura ? Ok. Bon, si tu veux, tu peux installer ton truc là, ton logiciel intuitif sur mon ordinateur. Bon, j'ai pas envie de savoir leur vérité, mais si jamais ça marche ton bidule, je préfère que les mammouths me parlent à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre.
À ce moment-là, un vrombissement surgit du petit bois qui entoure la grotte et une nuée d'étranges insectes globuleux se met à leur voler autour en formant des carrés dans l'air. Laura chasse de la main cet étrange escadron qui les attaque en plein hiver.
Berk, ah non, mais qu'est-ce que c'est tout gluant.
On entend un bip dans l'obscurité. Un peu plus loin, en direction du parking, la jeune et la grande dame aperçoivent une petite lumière rouge en suspension dans le ciel. Un deuxième bip. Et la nuée d'insectes disparaît comme appelée par cet engin non identifié en vol stationnaire.
Mais ça fait le même bruit que le drone qui était l'autre jour au carnaval de Saint-André-sur-Zac.
À suivre. La dimension souterraine ou les mystères du champignon fluorescent. Une réalisation de la grosse situation. Une histoire écrite entre juillet et décembre 2020 dans le cadre d'un compagnonnage avec le champ de foire à Saint-André-de-Cubzac. Lecture. Lucie Chabody, Cécile Delomeau, Bénédicte Chevalereau et Alice Fahrenkrug. Improvisation sonore souterraine, Yann Begbeder et Guillaume Lédin. Prise de son, montage et mixage, Michael Plugnan. Vous pouvez retrouver podcast et fanzine sur le site de La Grosse Situation.